Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Le magasin préféré des BDSMers, c'est Hornbar. Donc ça, c'est génial, parce que tu vas au rayon bricolage et tu vois des choses... je peux même pas dire, je sais pas, par exemple, des espèces de barrières. Tu te dis, ah ouais, ça va être super pour attacher quelqu'un dessus. Tu vois des tuyaux d'arrosage, tu te dis, oh là là, ça sera trop bien pour frapper quelqu'un avec. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ces magasins de bricolage qu'on peut détourner pour le jeu, puis leur faire subir plein de sévices.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Quand elle arrive avec son éventail rouge, son regard noir, sa robe cintrée et ses airs de reine des glaces, on n'a aucun mal à imaginer Clémentine une cravache à la main. Le BDSM, elle en connaît tous les secrets. Le consentement mutuel, le respect, le plaisir, mais aussi les dangers, les pratiques abusives, voire illégales. La trentenaire romande a accepté de donner à Brise-Glace une masterclass.
Je suis une femme d'une trentaine d'années. J'habite Lausanne et je pratique le BDSM depuis une petite dizaine d'années. Je suis en couple avec mon soumis et je m'éclate dans ce que je fais.
Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est, selon vous, le BDSM ?
Alors, purement théorique, BDSM est un cycle de 4 lettres, donc le B pour bondage, qui vient de l'anglais, qui veut dire ligoter, attachement, contrainte, pour pas que la personne puisse bouger. Puis après, une fois qu'elle est complètement ligotée, ben, on fait ce qu'on veut avec. Ensuite, il y a le D pour discipline. Donc on pose des règles. Et si ces règles ne sont pas respectées, il y a punition. Et ensuite vient le S et M, qui veut dire sadomasochisme. Le sadisme, c'est une personne qui prendra du plaisir sexuel, une excitation sexuelle à faire mal à quelqu'un. Et le masochisme, lui, c'est la recherche de plaisir dans la douleur, infligée par autrui ou sur lui-même. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est ça, c'est faire mal, c'est infliger des coups, de la douleur, donner des coups de fouet, et toujours dans le cadre du consentement, de la consensualité. Hein, c'est, on joue un rôle. Le BDSM, c'est un jeu grandeur nature. Moi, je joue le rôle de la domina, stricte, sévère, dure, intransigeante. Je suis une maîtresse, je suis une dominatrice et je suis sadique. On me craint. Il y a des personnes qui viennent vers moi, le regard baissé, parce que je les intimide, parce qu'elles ont peur de ce que je pourrais faire. Donc je suis contente quand on a peur de moi, parce que bah, je me dis, bah tiens, je joue bien mon rôle. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours été dirigiste. J'ai toujours été leader dans mon groupe d'amis, même enfant. C'est moi qui disais, on fait ci, on fait ça. C'est dans ma nature, c'est dans mon caractère, c'est intrinsèque, ça fait partie de moi. Et pendant très longtemps, parce que j'ai pas du tout été élevée comme ça, hein, j'ai eu aussi une éducation judéo-chrétienne. Jamais, à aucun moment, on m'a dit, bah tiens, tu pourrais faire ça. Non, j'ai eu vraiment par des chemins comme ça empruntés qui ont fait qu'un jour, je suis tombée sur ce monde-là, comme ceci, en disant, bah tiens, je suis faite pour ça. Et de fil en aiguille, j'ai testé. Enfin, d'abord, je suis allée sur Internet et il y a à boire et à manger sur Internet. Il y a vraiment de tout. Et puis, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas être attirée par ça. Et puis, j'ai eu un déclic. C'était un jour, je rentrais du travail, j'étais en fureur, j'étais vraiment mais fâchée, j'avais des envies de meurtre sur un collègue. Et je raconte ça à une amie qui me dit « Ah, mais mets une annonce sur Anibis, t'as envie de tirer des claques à quelqu'un, ça te fera le plus grand bien. » Mais c'était vraiment dans une dynamique un peu grotesque comme ça va te calmer les nerfs. Et ben moi, je l'ai fait. Et dans l'heure, j'ai eu une réponse d'une personne qui me disait « Ah oui, oui, je suis très intéressée, je cherche à être giflée. » Puis moi, j'ai jamais eu de tabou dans ma vie, ça m'a jamais paru étrange. Et je me suis dit « Ok, je vais le faire. » Je lui ai donné rendez-vous dans la forêt, là où j'allais promener mon chien tout le temps. Et puis, il se trouve qu'il est venu. C'était un charmant garçon, physiquement, il me plaisait bien. Puis il m'a demandé si, pendant que je le giflais, il avait le droit de se masturber. Alors, j'ai dit, bien évidemment, oui, c'est pas quelque chose qui me gêne. Alors, il s'est mis à genoux, il a baissé son pantalon, il a commencé à se masturber et moi, j'ai commencé à le gifler. Je lui ai dévissé la tête et j'ai adoré ça. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, je suis pas normale. Pourquoi ça me plaît? Pourquoi c'est si jouissif? Après l'épisode justement de la gifle, j'ai été beaucoup, beaucoup lire. Je me suis renseignée, j'ai été voir des bouquins dans les bibliothèques, j'ai regardé des films, je suis allée sur Internet. Donc je suis restée comme ça pendant presque une année, uniquement dans la théorie, dans le fantasme. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait un club en Suisse romande, très réputé, qui donc recevait des personnes qui pratiquaient le BDSM. J'ai pris contact avec le propriétaire et puis on a passé pratiquement une heure au téléphone. Il a répondu à mes questions, il a pris le temps de me dire un petit peu comment on s'habille, qu'est-ce que je vais devoir faire. Mais ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment bienveillant et que ils ont tout fait pour me rassurer en fait. Et effectivement, quand je suis arrivée dans cet endroit magnifique, une espèce de cave voûtée comme ça qui n'existe malheureusement plus, j'ai dit « Ah ouais !» Oh, c'est trop bien. Quand je suis arrivée, il y avait des gens qui étaient en train de jouer et j'ai vu ça, c'était absolument extraordinaire. Il y avait un petit bar au fond de cette pièce et puis il y avait des dames très élégantes, très distinguées, qui buvaient du champagne ou que sais-je, qui fumaient une cigarette. Et puis moi, j'ai été accueillie vraiment comme un petit peu comme dans une sororité, leur petite sœur comme ça, qui découvrait un petit peu ce qui se passait. Je suis très reconnaissante de ces personnes parce que j'en ai appris beaucoup grâce à elles, parce que j'y suis retournée évidemment presque tous les week-ends après, pendant aussi près d'un an, c'était presque ma deuxième maison, comme si depuis toujours je savais que ça devrait être comme ça et pas autrement. C'était vraiment quelque chose qui coulait de source. J'y suis allée seule à chaque fois, je savais que j'étais en sécurité.
Et vous étiez célibataire par ailleurs?
Oui, je trouvais pas de compagnon qui me correspondait, La vie vanille, comme on appelle, c'est la vie qui est en dehors du BDSM. Nous, on appelle ça la vie vanille pour les gens normaux. Et bien, la vie vanille, elle ne me satisfaisait pas. C'est ma vie sexuelle d'avant, je la trouvais très plate, très basique, très, très ennuyeuse. Voilà. Donc, je n'avais pas de compagnon à l'époque et ça m'a permis vraiment d'explorer ce monde à fond.
Comment vous étiez habillée le premier soir?
Je me rappellerai toujours. J'avais une robe noire, que j'ai toujours d'ailleurs, que je l'adore, c'est ma robe préférée, avec un décolleté hyper plongeant et des bas tenus par des porte-jartelles et des hauts talons avec des petits pics sur le talon, comme ça, noir. J'étais évidemment bien maquillée, rouge à lèvres, aux cils. J'avais des cheveux très longs à l'époque. Ah ouais, je me revois encore, c'est génial. Alors, on joue dans des donjons. Donc, c'est une espèce de pièce ou une maison ou un lieu aménagé avec divers matériels et mobiliers qui serviront au jeu plus tard. Donc, il y a des croix de Saint-André, c'est une croix qui ressemble à un X avec des attaches pour les pieds, les chevilles et les poignets, qui servent à immobiliser la personne soumise qui va se faire fouetter ou frapper. Il y a des chaises gynécologiques, donc on est assis sur cette chaise, les jambes écartées, et puis on peut travailler le sexe de la personne, ou l'anus de la personne, ou les seins de la personne, qui sera dans cette position assez avilissante pour la plupart des gens. Et il y en a d'autres qui se trouvent très bien à l'aise sur ces chaises, comme ça dépend du caractère. Il y a des bandes fessées, donc on peut se retrouver un peu penché en avant pour vraiment qu'on ait les fesses à portée de main pour pouvoir fesser, frapper. Il y a des carcans, donc c'est une espèce de pièce en bois avec un trou pour la tête, un trou pour les deux poignets. Il y a des grosses roues fixées à des murs qui tourneront comme les roues pour la loterie, un petit peu. Donc ça, le soumis peut se retrouver la tête en bas, perdre ses repères. Une fois, il y a eu Domina qui était là avant moi dans ce club. Elle m'a dit « Ah bah tiens, tu veux essayer le martinet ? Je te prête mon soumis. » Ah bah alors, oui, fabuleux, excellent. Donc elle m'a montré comment on maniait le martinet, par exemple. C'est une espèce de plusieurs lanières attachées ensemble avec un manche. Et très souple comme ça, très fluide. Et puis c'est fait pour frapper les fesses ou le dos du supplicié, on dira, ou du canevas, comme moi j'aime bien à le dire. Ensuite, il y a le fouet, comme dans Indiana Jones, hein, le fouet tout basique qui claque bien. Comme ça, on adore faire claquer ces fouets, les faire craquer, parce que ça met une espèce de transe comme ça dans le jeu. Le soumis, il entend ce craquement et il se dit « Oh là là, c'est bon, je vais ramasser. » Il y a le paddle, c'est une badine. C'est en bête bout de bois ou une espèce de petite planche avec un manche hein, qui tape à plat les fesses. Il y a la canne anglaise, c'est un long bout de rotin qui laisse de belles traces rouges sur la peau. Comme ça, c'est magnifique, ça claque, puis ça te vibre dans le bras, j'adore. Les pinces japonaises, c'est des espèces de petites pincettes métalliques qu'on met sur le bout des seins, sur les tétons. Il y a des baillons boules, des gag balls qu'on met comme ça à l'intérieur de la bouche pour que le soumis puisse mordiller quelque chose quand il reçoit la douleur, ou et puis surtout aussi pour le faire taire. Hein. C'est aussi un cadre d'humiliation ou de punition. Il y a des cagoules pour masquer la vue. On s'occupe de son corps, elle ne voit pas ce qu'on va lui faire. Voilà, il y a une multitude de pratiques et chacun jouera de la manière dont il l'entend. Et puis, après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, n'est-ce pas ? Donc j'ai dû trouver des fesses qui étaient bien d'accord de me servir de cobaye pour que je puisse m'entraîner. Alors j'ai commencé à m'acheter des petites cravaches.
Où ça ?
Alors j'étais chez Félix Buller, hein, simplement, donc c'est un magasin pour les cavaliers. Ouais, des vraies cravaches pour des vrais chevaux. Je suis allée aussi dans des sex shops pour m'acheter du petit matériel. Alors, c'était vraiment du bas de gamme. Je me rappelle, il y avait un petit paddle avec un petit cœur rose dessus. J'avais un petit masque pour empêcher de voir. Et puis mes fameuses cravaches, donc j'appelle mes petites chéries parce que j'aime bien le bruit de... Et donc voilà, mais au fur et à mesure du temps qui passe, on achète à gauche, à droite des choses. Et puis on les fabrique aussi. Moi, j'ai fabriqué des trucs. Le magasin préféré des BDSMers, c'est Hornbach. Donc ça, c'est génial parce que tu vas au rayon bricolage et tu vois des choses... Je peux même pas dire, je sais pas, par exemple, des espèces de barrières. Tu te dis, ah ouais, ça va être super pour attacher quelqu'un dessus. Tu vois des tuyaux d'arrosage, tu te dis « Oh là là, ça sera trop bien pour frapper quelqu'un avec ». Enfin bref, il y a plein de choses comme ça dans ces magasins de bricolage qu'on peut détourner pour le jeu. Et maintenant, j'ai mon propre donjon chez moi. J'ai une pièce qui est entièrement dédiée à ça. J'ai un banc de fessée chez Gynéco, j'ai une chaise de torture, j'ai un énorme cadre où je peux pendre des personnes et puis leur faire subir plein de sévices. Donc au fil du temps, on essaye d'autres techniques, d'autres pratiques. On demande à ses consoeurs, est-ce que tu serais d'accord de m'apprendre à faire ci ou à faire ça? Et puis en général, c'est très très bien reçu, parce que c'est vrai qu'il y a des techniques qui sont très dangereuses. Hein. Il y en a qui pratiquent l'étouffement, des choses comme ça. On peut pas faire n'importe quoi. On joue avec le danger tout le temps. Alors il y a des pratiques qui sont très douces, très soft, et il y a des pratiques qui sont beaucoup plus hard. Il y a des personnes qui m'ont contactée parce qu'elles voulaient l'ablation de leurs testicules, par exemple. Elles voulaient être castrées. Alors évidemment, moi, je ne le fais pas parce que je ne suis pas docteur, déjà. Même si, en tant que sadique, je suis quand même hyper intéressée par ça. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir le pratiquer, mais je sais que j'ai deux limites. Ce sont mes connaissances médicales et le cadre légal. Parce qu'il arrive quoi que ce soit, ça va me retomber dessus. Donc oui, bien sûr, on est entre deux adultes consentants. Mais imaginons qu'une personne décède lors d'un jeu, eh bien, on ne peut pas dire à la police ou au juge « Ouais, mais elle était d'accord ». Le BDSM n'est pas légal, n'est pas toléré. On n'a pas le droit de frapper un humain. On n'a pas le droit de l'attacher, on n'a pas le droit de le ligoter, on n'a pas le droit de lui mettre une cagoule. On peut faire signer toutes les décharges que l'on veut. S'il arrive quoi que ce soit, ça n'a aucune valeur juridique. Donc je fais en sorte de sécuriser au maximum ce que je fais. On n'est pas à l'abri d'un accident, ça peut arriver. Et puis si ça devait arriver, ben, je suis prête à prendre le soumis sous le bras et l'amener à l'hôpital. Je serai en vinyle ou je ne sais pas comment habiller. Ben, ma foi, ça sera comme ça. Voilà. Mais jamais, à aucun moment, un maître ou une maîtresse devra imposer quelque chose à un soumis ou une soumise qui ne sera pas d'accord de le faire. Il y a une espèce de code, le stop, qui est obligatoire de respecter. Le mode sécurité, hein, le safe word, c'est le soumis qui en a un. Tout d'un coup, il me dira Kleenex, voilà, je vois un Kleenex. Et ben, je sais que c'est son safe word, ben, je devrais arrêter ce que je suis en train de faire. Il y en a qui disent diamant, il y en a qui disent rouge, parce que les feux de signalisation, quand c'est vert, ça va, quand c'est orange, ça commence à être un petit peu, puis rouge, il faut arrêter. Ça, c'est très, très important. Alors, à peu près toutes les pratiques que je fais subir, je les ai testées moi-même. Hein, par exemple, je me suis fait fouetter pour savoir ce que ça donnait. Mais je ne suis malheureusement pas masochiste. Pas une seconde, je peux m'imaginer soumise. J'adorerais être masochiste parce que c'est vrai que les orgasmes masochistes sont extraordinaires, mais non, j'ai tout essayé, je ne le suis pas.
Pourquoi vous dites que les orgasmes masochistes sont absolument incroyables ?
Les orgasmes masochistes, le subspace, c'est le sub pour soumis et space pour une espèce de transe comme ça. C'est un orgasme qui n'est pas exclusivement sexuel, mais c'est vraiment tout le corps, l'esprit qui se joigne à cet orgasme. Parce qu'un homme qui éjaculera, ben, il aura bêtement une éjaculation, voilà, un orgasme avec son sexe. Et un orgasme masochiste sera vraiment très intériorisé, très cérébral. On dit que le soumis, il décolle comme ça, il monte dans un espèce de transe. Il y a des personnes qui sont proches de la convulsion quand ça arrive. C'est un état méditatif très intense où toutes les cellules du cerveau sont interconnectées avec les sensations du corps. Et au bout d'un moment, le cerveau, il lâche. Et c'est là qu'on atteint cet orgasme masochiste. En tant que maîtresse, c'est quelque chose que je recherche à faire partager à mes canevas, sans évidemment mettre leur santé et leur vie en danger. Mais c'est là tout l'art, tout le doigté d'un dominant et d'arriver à jongler entre cette douleur et ce plaisir. C'est une petite partition comme ça, il faut être très délicat, il faut vraiment être à l'écoute, avoir beaucoup d'empathie. Et une fois qu'on a atteint ce pic, après, eh bien, on s'occupe de la personne qui est peut-être encore tremblante ou un petit peu hagarde. Alors on le prend dans ses bras pour qu'il revienne un peu à lui. On lui fait boire un verre d'eau, on discute un petit peu. C'est la redescente comme ceci, elle est progressive. On appelle ça l'aftercare. C'est très important parce que ça peut mettre plusieurs minutes ou plusieurs heures à arriver la redescente. Donc ce stade-là, il faut pas le sauter. Souvent, ça arrive que des personnes qui viennent me voir, ben je leur dis non, restez encore 5 minutes parce que je veux pas que vous preniez le volant comme ça. Ou alors, allez vous payer un café au bistrot d'en face pour juste le temps de redescendre un peu.
Et vous, votre plaisir, vous le prenez quand et comment alors ?
En général, j'ai pas d'orgasme lorsque je domine. Par contre, j'ai ce qu'on peut appeler la satisfaction du travail bien fait. Lorsque je vois que mon canevas a atteint l'orgasme, ou mieux encore, le subspace, eh bien, je suis extrêmement satisfaite de moi. Une espèce d'euphorie comme ça qui m'entoure, qui m'englobe. Et puis évidemment, tout le long du jeu, j'ai été excitée sexuellement. Donc c'est vrai que à la fin, quand tout retombe comme ça, moi je suis dans une espèce de bien-être aussi, sans forcément avoir eu un orgasme physique, mécanique, hein, comme on pourrait l'avoir avec une stimulation clitoridienne ou vaginale. Non, non, moi j'ai vraiment une satisfaction plus globale.
C'est presque une forme d'altruisme en fait.
Oui, oui, bien évidemment, oui, oui, c'est de l'altruisme, mais dans ce milieu-là, on ne le formule pas vraiment comme ça en fait. mais c'est de l'altruisme, ouais.
Est-ce que c'était évident pour vous en tant que femme que vos soumis seraient des hommes ?
Pour ma part, moi je suis hétéro. Donc j'ai toujours eu dans l'idée de dominer des hommes, même s'il m'arrive de dominer des femmes, parce que c'est génial, c'est différent, ça change des hommes. Et puis que moi, je me considère aussi un petit peu comme hétéro-flexible. C'est-à-dire que si quelqu'un me plaît, homme ou femme, ben oui, je vais jouer avec. Je vais pouvoir lui faire plaisir, parce que ça me fait plaisir.
Vous avez dit tout à l'heure qu'actuellement, vous partagez la vie de votre canevas. Vous vous êtes rencontrés dans un donjon ?
Oui, on a joué ensemble et puis ça a tout de suite bien matché en fait. Et c'est ensuite qu'on s'est mis en couple, comme tout un chacun, voilà, on tombe amoureux. Dans ces soirées-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne fait pas de 8h le soir à 3h du matin des jeux. Ça ne se passe pas non-stop comme ça. On va dans ces soirées, il y a beaucoup, beaucoup de discussions autour d'un verre, parce qu'il y a toujours un bar, il y a toujours quoi se sustenter comme ça. Et au fur et à mesure qu'on se découvre l'un et l'autre, on se dit « Ah ouais, quand même, il me plaît bien, lui ». Donc on se donne rendez-vous pour une deuxième soirée, et puis après on se dit « Ah ouais, tiens, moi j'aimerais bien aller un petit souper au restaurant, juste toi et moi ». C'est pas parce que je l'ai vu à quatre pattes avec un collier autour du cou que je ne peux pas lui dire « Bah tiens, allons boire un verre, discutons ».
Est-ce qu'il y a de la place dans une relation amoureuse comme ça pour la tendresse ?
Oui, je fais des bisous à mon amoureux, on se dit des mots tendres, on se tient la main, ouais. On est très très amoureux et c'est vrai que d'autres personnes qui nous connaissent un petit peu plus dans notre intimité nous ont déjà dit qu'on dégoulinait d'amour, effectivement. Ouais. On donne toujours une image très stricte et très froide, mais il y a dans l'amour, il y a évidemment les câlins et tout ce qui pourrait être entre un homme et une femme lambda. Donc voilà, maintenant c'est mon amoureux et c'est mon soumis aussi. Il me vouvoie 24 heures sur 24 et puis on joue chez nous, dans notre donjon, on y va à fond quoi. Pratiquement tous nos week-ends sont dédiés à ça. Donc on voyage beaucoup, on visite beaucoup de donjons, on va à Berlin, on va à Munich, on va en France. On aime beaucoup sortir dans ces soirées-là. Plus fétiche que BDSM, parce que c'est vrai que les soirées BDSM, c'est plus difficile d'en trouver dans des donjons qui sont bien. Et d'aller dans des soirées fétichistes, c'est génial ce milieu-là, parce que les soirées fétichistes sont plus grandioses. Donc moi, je peux me retrouver habillée en latex, des pieds à la tête. Et donc, on aime bien s'y rendre.
Quand vous allez dans ces donjons, est-ce qu'il y a une notion d'exclusivité ?
Alors, ça dépend pour qui. Mon soumis m'est totalement exclusif. Je ne lui ai pas donné l'autorisation d'aller jouer avec qui il veut. S'il me le demande, s'il le formule, je peux lui accéder le droit de jouer avec quelqu'un, mais c'est moi qui l'introduirai auprès de cette personne en lui disant « Bah voilà, est-ce que tu es d'accord de jouer avec lui ou pas ?» Moi, par contre, alors, je peux jouer avec qui je veux. Avec mon soumis, qui est donc mon soumis numéro 1, du coup, on a des règles très strictes. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, parce que voilà, c'est quand même mon amoureux aussi. Hein. On peut pas, je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas coucher avec quelqu'un. Ça, c'est évident. Et en tant que maîtresse, d'ailleurs, je ne couche avec personne. Mon corps, mon sexe est à moi. Je ne le montre à personne, il ne le touche pas. Avec mon soumis numéro 1, évidemment, je jouerai avec lui, mais je pourrais éventuellement aussi coucher avec lui, mais après, à un autre moment, mais pas dans le jeu. Donc, évidemment, lorsque je couche avec mon amoureux, lorsqu'on fait l'amour, eh bien, il y a toujours les petits gestes de domination, il y a toujours des petits titillements, il y a toujours des petites fessées, ou des ordres aussi. Je lui dirais, ben, lèche-moi maintenant, ou caresse-moi maintenant. On aime bien pimenter un petit peu nos coïts. Parce que ben une relation sexuelle normale, basique, lambda, est à mourir d'ennui. Je m'emmerde, vraiment. Donc il y aura toujours entre nous ce rapport dominant-soumis. Alors c'est difficile de vivre une relation BDSM H24. C'est très fatigant, c'est éreintant. Au bout d'un moment, tu peux plus faire la maîtresse comme ça, parce qu'il faut être tout le temps dans le contrôle, il faut tout surveiller pour qu'il fasse tout exactement comme on veut qu'il le fasse. Et au bout d'un moment, non, c'est plus gérable. Non, non, non. Il y a des moments de relâchement, il y a des moments normaux où moi-même, je suis en tenue décontractée sur mon canapé, regarder ma télé. Voilà, je suis pas tout le temps non plus avec ma robe stricte, mon chignon et mes hauts talons. Non, non, c'est humainement pas possible. On peut jouer sur des plus longues périodes, comme par exemple un week-end. On commence le vendredi soir et ça se termine le dimanche soir ou pendant les vacances. Mais il y a toujours un début et une fin.
Mais tout le temps, il vous voit.
Tout le temps.
Et vous le tutoyez.
Oui. Il y a quelques exceptions. Sa famille, à lui, n'est pas du tout au courant. Donc, évidemment, quand on va chez lui, il me tutoie. On se comporte normalement, comme dans la vie vanille, justement. Après, mes parents s'en doutent fortement. Ben, moi, de par mon caractère, c'est clair que tout le monde m'imagine avec une cravache à la main. Ça, c'est presque gravé sur mon front. Ils savent que je porte du latex, que je vais dans des soirées exclusivement looker latex, parce que je leur ai dit, je leur ai montré mes tenues, ils savent. Ils savent aussi que je fais du needle play, donc c'est du jeu d'aiguilles. C'est une espèce de jeu comme ça où on utilise des aiguilles médicales, les mêmes qu'il y a au bout des seringues pour les prises de sang. Et on les plante délicatement dans la peau, puis on fait des motifs, on fait des jolies choses comme ça. Comme quand on fait de la couture, on les met parallèles à la peau, comme ceci. On glisse l'aiguille sous la première ou deuxième couche du derme, on ne va pas très loin. C'est vraiment des petits picotements que ça procure, une aiguille. Ce n'est pas très douloureux. C'est vrai qu'à force, si tu en mets 60 ou 70, ben, tu arrives quand même à avoir une espèce de bien-être comme ça, parce qu'il y a les endorphines qui sont libérées. Bref, donc mes parents savent que je pratique le needle play. Et puis, quand je vous ai parlé avant que j'allais bricoler des choses moi-même, ben, j'allais dans l'atelier à mon père. Faire des choses. C'est pour faire quoi, ça? Non, non, mais tu veux pas savoir, papa. Enfin, en même temps, c'est assez clair.
Alors, vous avez un site internet avec un pseudo.
Oui. Je raconte des petites choses, des petites anecdotes, ce que je vais faire, dans quelle soirée on est allé, comment on est habillé, des choses qui sont arrivées. Je partage aussi des articles de différents magazines, des choses comme ça que je trouve intéressant. J'essaye aussi d'aider peut-être ou de guider des personnes qui pourraient s'intéresser à ça. Mais alors, je suis pas du tout dans l'idée d'être professeur SBDSM, mais c'est vrai que il y a aussi un petit côté exhibitionniste. Je suis fière d'être Domina. Je suis connue dans le milieu et quand je vais voir les statistiques de ce site, je vois qu'il est quand même pas mal consulté. Et puis, il arrive régulièrement que je me rende dans des soirées et puis qu'on me dise « Ah, c'est vous !» Ah, ça, c'est hyper gratifiant. Puis, ça prend du temps de gérer un site comme ça. Et ben, je suis assez contente. Un petit merci, comme ça.
Dans la pop culture, ces dernières années, une certaine vision du BDSM a émergé aussi. On peut penser à Fifty Shades of Grey, on peut parler à des séries. Quelle vision vous portez là-dessus ?
Alors moi, je suis extrêmement mitigée par rapport à ça. La première raison, c'est que maintenant, le BDSM est tout public. Après Fifty Shades, on a vu déferler dans les clubs, les choses, une multitude de personnes qui ont dit « Ah ouais, moi j'ai lu le bouquin, je veux faire ça », alors qu'ils sont pas forcément dominants dans l'âme ou soumis dans l'âme, mais juste ils se sont dit « Ah ouais, ça pourrait être super cool de faire ça, tiens, on va rigoler ». Non, non, c'est quelque chose de sérieux, ça. Parce qu'une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait et se dit maître et a une petite jeune femme d'une vingtaine d'années en face d'elle qui n'y connaît rien du tout, elle pourra se faire violer en pensant que c'est les codes du BDSM, par exemple. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Et la deuxième raison pourquoi je suis extrêmement mitigée avec la vague Fifty Shades, c'est que Christian Grey, à 4 ans, il a été adopté parce que sa mère était droguée, prostituée. Et c'est apparemment pour cette raison-là qu'il serait devenu maître dominant. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement malsain de mettre en parallèle le BDSM et la perversion mentale. C'est faux. Même si Krafft Ebing, en fin des années 1800, a fait une étude là-dessus. C'est d'ailleurs la première fois qu'a été verbalisé le sadomasochisme hein, dans son Psychopathia sexualis, qui est donc une pathologie psychique. D'ailleurs, on est toujours dans le DSM, hein, le fameux bouquin des maladies mentales. Je pense qu'il faut être justement sain d'esprit pour pouvoir pratiquer un BDSM sain. Évidemment, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de personnes mal intentionnées dans ce milieu, il y en a. Mais le fait de populariser le BDSM, même s'il a pu dévoiler quelques vraies vocations, de personnes qui se sont dit « Ah, mon Dieu, mais je suis comme ça !» Et ça, c'est une très bonne chose. Mais dans la plupart des cas, je sais pas vraiment si c'est bien d'avoir ainsi médiatisé cette pratique sexuelle qui, comme on l'a dit plus tôt, est quand même dangereuse dans la plupart des cas.
Qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui écoutent cet épisode et se disent « Non, mais ils sont complètement malades ?»
Je peux les comprendre parce que je me suis posé la même question lorsque j'ai découvert ça. Je leur demanderai juste de ne pas juger des personnes qui s'épanouissent dans une pratique sexuelle qui n'est pas la leur. Il faut une tolérance. Je vous forcerai à rien. Je ne vous demande pas d'aimer ce que je fais. Je ne vous demande pas de le pratiquer à votre tour. Je vous demande juste de me laisser faire ce que je fais parce que je le fais bien et dans un cadre consenti.
Et enfin, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui se demandent si peut-être c'est leur truc ?
Alors je leur dirais, eh bien venez voir, on est là, on n'est pas des monstres avec des crocs qui vous attacheront forcément sur une croix pour vous fouetter, pas du tout. Non, venez poser vos questions et on va passer une bonne soirée et vous découvrirez que si vous êtes fait pour ça, eh bien vous serez le bienvenu, autrement, bien passez votre chemin et découvrez vraiment qui vous êtes.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de Marion Marchetti. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours!